Ce n'est souvent pas par choix délibéré que les agriculteurs utilisent des pesticides. Selon Maxime Laplante, président de l'Union paysanne, tout le système, tout l'encadrement agricole contribue à maintenir un usage constant des pesticides.
Le premier constat, c'est qu'il y a un peu deux directions. Donc, on a d'une part les tenants de l'environnement, la santé, qui viennent nous dire, ben, écoutez, il y a un problème. On a des rivières qui ont des pesticides dedans, l'alimentation, etc. Et on a tout l'autre côté qui nous dit, ben nous autres, on vend des pesticides, on les utilise, on les emploie, on les recommande, quoi que ce soit, et qui nous disent, écoutez, ça va bien, on fait des efforts, on est consciencieux. Il ne reste qu'il y a un problème. Il y a des pesticides dans notre alimentation, il y a des pesticides dans l'environnement, donc il faut y trouver une solution. On ne peut pas dire, on maintient le statu quo et qu'on continue comme ça. Un des éléments, entre autres, qui n'a pas été soulevé dans le cadre de la commission, peut-être dans le cadre d'un des mémoires là, que j'ai pas eu l'occasion de lire. De plus en plus de travailleurs étrangers également viennent au Québec pour participer à la production agricole et ils sont en première ligne de l'utilisation des pesticides. C'est eux qui ont le nez dans les légumes qu'ils récoltent ou les fruits, etc. Que se passe-t-il sur la santé de ces travailleurs étrangers-là? C'est un des nombreux impacts de l'utilisation des pesticides. Le suivi médical, et ces gens-là ne savent pas nécessairement toujours parler français. Est-ce que de retour dans leur pays d'origine, on va s'assurer qu'il y a un suivi médical correspondant? Donc, je fais juste ajouter un élément. Les pesticides, donc, sont nocifs au départ. Je pense que tout le monde le reconnaît d'emblée. On nous dit qu'il faut faire attention sur l'utilisation, le dosage, mais on s'entend qu'ils sont nocifs. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects de santé et environnement. Je pense qu'il y a un paquet d'autres organisations qui l'ont fait de façon nettement plus étoffée qu'on pourrait le faire. Sauf que, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie économie. Je suis un pragmatique. Je ne vois pas pourquoi l'environnement et l'économie seraient deux dossiers opposés. Ils vont ensemble. Et quand on nous dit que le bio est plus cher, il y a des raisons à ça. La première, en tant que producteur bio, puis là, c'est surtout pas un plaidoyer pour la certification bio là, que je vous fais. Là. J'étais pendant 40 ans producteur non certifié bio, sans pesticides, mais je n'étais pas certifié. Là, je le suis présentement pour des fins commerciales. Mais donc, c'est pas un plaidoyer bio que je vous fais, mais pour la réduction des pesticides. Premièrement, sur ma ferme, je dois payer une certification bio. Pourquoi? Parce que d'autres utilisent des pesticides et ils ne vont pas payer de certification. Donc, la certification est à mes frais. Deuxièmement, on parlait des bandes riveraines. J'entendais les interventions de M. Auvebeck là-dessus. On perd 1 % des surfaces à cause des bandes riveraines. Moi, sur ma ferme, je dois retrancher 8 mètres, pas un mètre, 8 mètres de chaque côté de ma ferme comme bande tampon pour éviter la contamination des voisins. Ma ferme a à peu près 200 mètres de large. Bien, 8 mètres, ça fait 16 mètres sur 200 mètres, ça donne 8 % de ma ferme. 8 % de ma ferme ne peut pas être utilisée à cause de la contamination éventuelle des voisins. J'ai quoi comme compensation là-dessus? Okay. Autre aspect, juste, je veux partager de la machinerie moissonneuse-batteuse. Si elle a été utilisée pour des céréales qui contenaient des pesticides, donc moi, je dois décontaminer à mes frais. Si je veux partager un semoir, même chose. Donc, ça m'oblige à acquérir de la machinerie pour être certain qu'elle est décontaminée pour ne pas perdre ma certification coût supplémentaire ou décontamination. L'accès aux semences. Nous avons un besoin criant de semences adaptées à des conditions sans pesticides et sans engrais de synthèse. Et ça, tous les semenciers bio, tous les fermiers qui font dans le bio, qui essaient de le faire sans pesticides, sont unanimes là-dessus. Il y a un besoin urgent de semences qui sont adaptées pour de bons rendements sans qu'on ait besoin d'ajouter des engrais de synthèse, sans qu'on ait besoin de mettre du Roundup ou d'autres produits. Donc, il y a eu besoin de recherche urgente là-dessus. Les semences qui ont été développées essentiellement ou majoritairement ont été faites dans des conditions optimales de l'industrie des produits de synthèse. Donc, pourquoi est-ce que le bio est plus cher? Bien, évidemment, parce que tout ça. Et là, je ne parle pas de la contamination par dérive. Si on applique un pesticide sur les terres avoisinantes, bien, il peut y avoir dérive par le vent, etc. Peut-être que mes plantes ne vont pas en mourir, mais peut-être qu'il va y avoir une perte de rendement, par contre. C'est le cas aux États-Unis, où j'ai rapporté, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec l'Université du Missouri par le biais d'un producteur maraîcher bio, qui me dit, bon, on fait des relevés parce que l'application du dicamba, qui est un herbicide à large spectre, qui est pour les céréales, principalement, et vous avez contamination dans à peu près quelque part entre 1 million et 2 millions et demi d'acres aux États-Unis de cultures de soya ou d'autres cultures ornementales, fruitières, etc., à cause des dommages du dicamba. Donc ça, c'était un autre pesticide. Si on fait juste éliminer la trazine qu'on remplace par d'autres choses, je ne suis pas sûr qu'on aboutit à un résultat à long terme. Ensuite, mon point majeur, c'est qu'actuellement, le système incite à la monoculture au Québec et les monocultures, surtout pour l'exportation, sont intrinsèquement liées à l'utilisation de pesticides. Personnellement, même si je suis agronome, s'il fallait que j'aie à gérer 1000 hectares de maïs spécialisés en monoculture pour exportation, je ne sais pas comment j'y arriverais sans pesticides. Je n'ai pas peut-être que c'est possible, mais je ne l'ai pas et je ne sais pas comment je ferais. Donc, ma réflexion est comment peut-on éviter ça? La question économique sur laquelle j'avais abordé, on s'est permis donc de vous transmettre une couple de documents sur l'aspect économique de la chose. Le premier graphique est assez simple. Il y a deux courbes, c'est assez facile. Donc, on remonte jusqu'aux années 40, fait qu'il y a quand même un éventail de temps assez large, et qui montre d'une part la courbe du haut, c'est l'augmentation du revenu brut des fermes. Bon, qui augmente? Oui, effectivement, c'est un constat, c'est clair. La courbe du bas démontre le revenu net des fermes. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pas le chiffre d'affaires qui m'intéresse, c'est mon profit, c'est ce qui me reste à la fin de l'année. Le revenu net au Canada, de 1947 à 2002 sur le graphique, est en déclin. Et ceux qui me diraient 2002, ça fait quand même quelques années, qu'est-ce qu'on en est à 2019? Le sous-ministre M. Dion, lors de la présentation du bilan de la politique bioalimentaire il y a quelques mois, nous faisait état. Oui, le chiffre d'affaires a explosé, bravo, génial. Oh, c'est vrai, le revenu net des fermes a diminué. La tendance se continue. Donc, vous remarquez que chaque fois qu'on nous a apporté de nouvelles technologies que je qualifierais de lourdes, puis c'est surtout pas un plaidoyer contre la technologie. Exemple, les tracteurs à quatre motrices. Oui, j'en ai un. Pour mes 30 hectares de céréales, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai tracteurs à quatre motrices, les grosses moissonneuses batteuses, les glyphosates, les insecticides, pesticides de synthèse, les engrais chimiques, toutes ces nouvelles trouvailles technologiques lourdes ont provoqué un endettement supplémentaire pour la ferme. Augmentation du revenu brut, oui, mais qui n'ont pas abouti à l'augmentation du revenu net. Le deuxième tableau que je vous ai également remis, assez simple également, montre, oui, l'évolution du revenu des fermes, mais également, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on ajoute les subventions? Donc, la courbe du haut, c'est le revenu des fermes, là, on parle de l'échelle canadienne, lorsqu'il y a soutien gouvernemental. Mais si on enlève le soutien gouvernemental, on aboutit exactement au tableau précédent, qui est une baisse du revenu net, et même qui va dépasser la ligne rouge. Donc, on se retrouve dans le négatif. Donc, quand on parle de financement, là, je parle de tout le système incite à la spécialisation, et je ne l'invente pas, le dernier document que je vous ai transmis, c'est tiré directement de la politique bioalimentaire du Québec, qui nous dit que les intentions du gouvernement, on ne parle plus d'un objectif de réduction des pesticides, on parle de la réduction des risques associés à l'emploi des pesticides. Je ne veux pas caricaturer en disant ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut avoir des gants un peu plus longs quand on l'applique ou un meilleur masque pour pouvoir en respirer? Il peut y avoir un paquet de mesures. Mais le gouvernement a abandonné largement l'objectif de réduire les pesticides. On maintient la ligne d'exportation. Je cite également la politique bioalimentaire du Québec récente. J'étais au lancement et au bilan. Et là, je vais faire des soustractions très simples. 2012, le gouvernement en matière d'approvisionnement du Québec, ce que le Québec consomme et ce que le Québec produit. 2012, un déficit de 16 milliards entre ce qu'on produit et ce qu'on importe. 2014, déficit de 19 milliards, donc la dépendance face aux importations a augmenté. L'objectif de la politique bioalimentaire est d'accroître le déficit à 22 milliards d'ici 2025. L'objectif de la politique bioalimentaire du Québec est de presque doubler les exportations et d'accroître notre dépendance face aux importations. Ça, c'est l'objectif. Donc, tout ce qui s'appelle spécialisation, monoculture, nous entraîne vers une utilisation accrue des pesticides et le gouvernement nous enligne directement dans une augmentation des spécialisations exportations, donc accrue, demande accrue de pesticides. Sommes-nous dans la bonne direction? J'en doute.
Et question subséquente du député de Bourget, Richard Campeau.
Est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une plus petite ferme et que les grandes fermes, c'est moins pire à ce moment-là?
C'est un peu mon point de vue, effectivement. Là, je peux donner des exemples de coûts supplémentaires. Je vais donner des exemples extrêmement précis. Il y a un programme actuellement pour les engrais verts en couverture hivernale. Bon, c'est 50 $ l'hectare. Donc, le but, évidemment, c'est qu'il y ait une couverture du sol pendant l'hiver. Objectif tout à fait compréhensible. Mais le montant est donné à l'hectare. Là, dans mon cas, j'aurais eu 3 hectares où je me demandais comment je vais faire pour le couvrir pour le sol. Bon, le 3 hectares à 50 $ avec toute la paperasse et les tracasseries administratives qui sont liées à ça, j'en aurais eu aisément pour une journée et demie de travail juste pour remplir la documentation et l'obtenir. Donc, évidemment, pas intéressant. Fait que je renonce à ça. Fait que je reprends l'exemple qui avait été donné récemment. Bon, une subvention, c'est un peu comme un 20 $ qu'on trouverait sur le sol comme ça. Fait que je ne vais pas investir tout ce temps-là. La prime à la conversion du bio, même chose, c'est 100 $ par hectare. Si j'ai juste 30 hectares, ben, ça fait pas beaucoup. Puis en plus, tout à peu près ce qui va avec. Mais celui qui en aurait 100, bien évidemment, ça devient plus intéressant. Donc, et la SRA qui nous dit, si c'est pas au moins 10 hectares, désolé, c'est pas assurable. Donc, les programmes gouvernementaux exigent déjà une surface minimale. Là, 10 hectares pour les céréales, c'est valable pour le porc. Quand j'élevais du porc, pareil au pâturage, j'étais au moins 300 porcs pour avoir l'assurance, j'en avais juste 20. Donc, je me retrouvais en concurrence avec des gens qui sont subventionnés. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question.
Ça répond bien sûr à la question, mais ça montre que c'est beaucoup plus difficile d'être une plus petite ferme qu'une plus grosse ferme.
Le président de l'Union paysanne, Maxime Laplante, voit un lien important entre l'usage de pesticides et ce qu'il appelle le contrôle de l'UPA sur le monde agricole. Il discutait alors avec la députée Marie Montpetit.
Je ne me sens pas représenté par les représentants de l'UPA qui affirment pourtant représenter tous les producteurs agricoles du Québec. Il y a une question au départ de représentativité. Les agriculteurs du Québec qui n'ont même pas le droit de la liberté d'association, ça veut dire qu'on continue au Québec, depuis un demi-siècle, à avoir un discours unique. Et on a vu l'ingérence qui se passe à l'intérieur du sérum et à l'intérieur de toute l'infrastructure agricole, que ce soit sur l'influence auprès de la financière agricole, les comités consultatifs des MRC, la CPTAQ, la Régie des marchés agricoles, Valacta sur le contrôle du lait, la agritraçabilité pour les étiquettes dans les bovins. Donc, l'influence, la co-gestion de corporations ou d'intérêts en plus monopolistiques est démesurée. Donc, le résultat, il y a un seul intervenant qui plaide pour exportation, plus de subventions, non, les pesticides, on en a besoin. Bien, ça donne ça. Donc, la première mesure serait effectivement, je me répète sûrement dans mes propos, mais d'ouvrir la liberté. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas 3 associations agricoles au Québec, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, soit dit en passant. En Ontario, ils ont 3-4 associations, au Nouveau-Brunswick aussi, etc. Donc, plusieurs points de vue amèneraient une diversité et qui se reflèterait. La CPTAQ, par exemple, qui continue à croire qu'en bas de 100 hectares, c'est non rentable. Mais c'est un mythe absolument incroyable. Des fermes de moins de 100 hectares, c'est 99 % des fermes sur la planète. La CPTAQ qui dit « Ah, on doit préserver l'homogénéité du territoire. » Mais au contraire, la société civile nous dit « On veut de la diversité. » Et là, l'organisme qui gère le territoire nous dit « Nous autres, on veut que ce soit homogène. » Bon, on est mal parti. La Régie des marchés agricoles, qui, sous la pression de l'UPA, refuse actuellement d'appliquer la loi de la mise en marché des produits agricoles au Québec et m'interdit de produire mon poulet hors quota pour vendre direct aux consommateurs et à mes voisins et clients, alors que je pourrais avoir besoin du fumier de ces volailles-là pour fertiliser mes cultures bio en céréales. On m'interdit de le faire et on importe ces denrées-là à large volume de l'étranger, hors quota, avec pesticides, etc., en concurrence directe avec mon produit qu'on m'interdit de faire. Fait que c'est une refonte complète. Et donc, le point d'ancrage serait d'abord la liberté d'association.
Pourquoi on vous interdit de le faire sur le dernier élément que vous mentionnez?
Oui. La loi sur la mise en marché des produits agricoles, de façon très courte, est très claire. L'article 63 dit « Toute mise en marché directe aux consommateurs, ne pas être soumise à quelques plans conjoints, quotas que ce soit. » C'est la loi, puis c'est appliqué partout ailleurs, au Canada d'ailleurs. Et la Régie, sous la pression de l'UPA et de ses filières, refuse d'appliquer la loi. Donc, m'interdit, j'ai droit à 99 poulets. Ben là, on a gagné à 300 poulets, mais c'est un peu léger. 100 poules, 24 dindons. Je ne vais pas faire une entreprise rentable avec 24 dindons, hein. C'est pas sérieux. Alors que j'aurais la possibilité de faire 2000 poulets et de le vendre directement à mes clients. Fait que ça, c'est une entrave majeure. Fait que si je ne peux pas établir mon revenu de façon diversifiée à la ferme, oui, je demeure confiné à faire du maraîcher avec l'importation de travailleurs étrangers ou avoir des cultures céréalières de plus grande surface. Fait qu'il y a un lien direct avec la question des pesticides et des monocultures.
Dans la même voie, l'Union paysanne continue de promouvoir la formule des contrats verts entre l'État et les agriculteurs, plutôt que le plan vert proposé par l'UPA. De nouveau, Maxime Laplante.
Ce que l'Union paysanne demande, et ce depuis sa fondation, c'est un contrat avec le monde agricole. Qu'on se débarrasse tranquillement, graduellement, d'un système de subvention, qu'on ne le fasse pas du jour au lendemain, j'en conviens tout à fait. Présentement, on ne devrait pas, à l'échelle mondiale, à l'échelle du commerce international, il est de plus en plus prohibé de faire du soutien au volume de production. Le Canada se trouve dans une position assez étrange et presque schizophrénique dans ce domaine-là, alors qu'on aurait intérêt à... Exemple, je vais être encore là très concret, le ministère de la Santé qui investit auprès des médecins et des hôpitaux, on s'attend à ce qu'il y ait un service. Quelqu'un qui se casse une jambe, on sait où aller. Le domaine d'éducation, etc., la voirie, les ingénieurs civils, on s'attend à ce qu'il y ait un service rendu pour la société. On s'attend des agriculteurs qui produisent de la bouffe, oui. Mais ça, c'est le marché qui est supposé payer ça. Mais on leur demande également de créer de l'emploi, de protéger les ressources, les cours d'eau, les bandes riveraines, l'écosystème, la diversité, etc. Mais il n'y a aucune rémunération pour ça. Et là, au lieu de donner des subventions à la clé, à la pièce, pour une année pour des engrais verts, une année pour des brise-vents, une année pour monoculture de maïs transgénique, pourquoi ne pas faire un contrat? On veut avoir de la biodiversité, on veut de la création d'emplois. Bien, à ce moment-là, faisons un contrat et les fermes qui se soumettront à ça pourront participer au contrat. C'est l'essentiel du contrat vert que j'ai présenté d'ailleurs dans le cadre du mémoire devant la commission Pronovo. Donc, c'est un changement complet de paradigme. Sinon, on s'enlise dans des petites mesures de courte pointe, patchage en québécois, où on va avoir subvention pour tant d'hectares sans pesticides. Puis là, il va falloir gérer ça. Qui va inspecter? Donc, paperasse épouvantable, juste le plan de fertilisation. Mais bon, ça, est-ce que j'ai besoin de ça? Donc, ce sont des outils qui sont coûteux en administration, mais qui n'atteignent pas la cible. Et ça se mesure. La Suisse le fait depuis 30 ans. On mesure la biodiversité. Le service des inspecteurs du leur ministère de l'Agriculture vérifient est-ce qu'on a augmenté le nombre d'emplois en agriculture? On ne se pose même pas la question. On regarde le nombre de fermes disparaître, puis c'est presque la voix de Dieu, alors que ça pourrait s'influencer. Donc, on est en opposition totale avec le plan vert de l'UPA. Qu'on veuille protéger l'environnement, oui, mais les outils qu'on veut mettre en place sont radicalement différents.
Ici Lionel Levac. Dans un prochain blog, je vous présenterai justement le point de vue de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Au revoir.